Chapitre 17. L'habitude dans notre société bourgeoise est, quand on a besoin de voir les gens, d'aller les trouver chez eux. Avec le prince de Capel, prince royal, héritier d'un trône, ce n'était point ainsi qu'il fallait procéder, et si on voulait le voir, ce n'était point dans la maison du boulevard des Italiens où il avait son appartement qu'il fallait lui écrire pour lui demander une audience, pas plus que ce n'était là qu'il fallait se présenter pour être admis près de lui. D'audience, il n'en accordait point, et l'unique travail de l'aide de camp qu'on avait attaché à sa personne était de répondre aux quelques lettres ayant un caractère public qu'on lui adressait de temps en temps et qu'il ne lisait jamais, que le prince ne pouvait pas recevoir. Quant à être admis près de lui, il n'était besoin d'aucun cérémonial, pourvu qu'on fût de son intimité ou simplement pourvu qu'on eût quelques relations avec lui ou avec ses amis. Si on voulait le voir ou l'entretenir, il n'y avait tout bonnement qu'à se promener le soir, après minuit, devant le café riche, et on était sûr de le trouver là, ou bien de ne pas tarder à le voir arriver. Zut au cérémonial des cours. Pour trône, une chaise en bois noir de la terrasse de Bignon, pour royaume le boulevard, pour sujette les fleurs de l'asphalte. Aimable, bon garçon, avenant, autorisant toutes les familiarités et se les permettant lui-même, il avait l'air d'un grand collégien échappé, débarrassé de toute surveillance, heureux de pouvoir parler, agir, remuer, s'asseoir en liberté, les mains dans les poches, sans tenue naturellement. Et les saluts qu'on lui adressait, il les rendait. Les mains qu'on lui tendait, il les serrait dans une camaraderie banale et facile qui ne s'inquiétait pas de savoir ce qu'était, ce que valait réellement, d'où venait, où allait, ce que le hasard plaçait sous son chemin, bohème, viveur, homme de talent, aventurier, gens du monde, bourgeois vaniteux qui le recherchaient pour se donner la gloriole de parler de leur ami, le prince de Capel. Peu lui importait s'ils étaient boulevardiers comme lui. En sortant du club, ce fut donc au café riche que le duc de Naurouze se rendit, assuré de le trouver là. Le prince n'était pas arrivé, mais il ne tarda pas à paraître, et en apercevant Roger, il vint à lui d'un mouvement empressé, sans s'arrêter pour répondre aux signes et aux sourires qu'on lui adressait sur son passage, marchant à grands pas, tout en abaissant le collet de loutre du paletot fourré dans lequel il était enveloppé. Le premier mot du prince fut celui dont Roger avait déjà été salué au club. « Qu'êtes-vous donc devenu aujourd'hui qu'on ne vous a pas vu ?»« J'ai cherché l'argent nécessaire pour payer ma perte d'hier. » Roger tendit au prince une petite liasse de billets. « J'espère que ce n'est pas pour me remettre ça que vous êtes venu ce soir ?»«
Non. » »«
À la bonne heure. Je ne vous le pardonnerai pas. Je suis déjà assez ennuyé d'avoir pris part à ce jeu. »
« Et pourquoi donc? Soyez assuré que la délicatesse avec laquelle vous avez joué et que votre discrétion a vous retiré quand vous m'avez vu m'emballer, m'en toucher, non pas sur le moment peut-être, mais plus tard, par réflexion et surtout par comparaison. Je suis d'autant plus heureux de cela que j'ai un service à vous demander, ce que je n'oserais pas faire si j'avais le plus léger grief contre vous. »
« Un service? Tout à vous. Dites, dites vite. »
C'est que, voilà, justement cela ne peut se dire si vite ni ici. Si vous n'en êtes pas empêché, nous pourrions faire un tour sur le boulevard.
Cela presse ? Demanda le prince d'un air un peu embarrassé.
Mais non, pas du tout, quand vous voudrez.
Eh bien, à tout à l'heure alors. J'aperçois Quinsac là-bas et je voudrais lui demander s'il connaît la petite femme avec laquelle Charmon était caché ce soir aux variétés dans le fond d'une baignoire. « Personne ne sait qui elle est. Nous avons eu beau chercher, beau demander, rien. » Il resta assez longtemps éloigné, car après Quinsac, il alla interroger un autre de ses amis, puis après celui-là, un autre encore. L'enquête ne pouvait être faite avec trop de soin, cela en valait la peine évidemment. Enfin, il revint.
« On ne sait pas, dit-il désappointé, mais Quinsac cherchera. » Je suis maintenant tout à vous. »
Ils sortirent. La pluie qui avait tombé pendant toute la journée avait adouci le temps et l'on pouvait causer en se promenant sans souffrir du froid.
les passants étaient assez rares et assez pressés de rentrer pour qu'on n'eût pas à craindre les oreilles indiscrètes. « Vous chassez demain avec l'empereur à Saint-Germain, n'est-ce pas ?» commença Roger en passant son bras sous celui du prince. « Ne me parlez pas de cette corvée. Ce qui est une corvée pour vous peut être une heureuse chance pour moi. Comment cela ? Si vous voulez bien me présenter à l'empereur, vous présenter à l'empereur, demain, dans une partie de chasse, moi ? Vous plaisantez, n'est-ce pas, mon cher Roger ? Je n'ai jamais parlé plus sérieusement. C'est pour vous expliquer mes raisons que je vous ai entraîné sur ce boulevard. Si bonnes que soient vos raisons, elles ne feront pas qu'il soit correct de vous présenter à l'empereur dans une partie de chasse à laquelle vous n'êtes pas invité. Si vous avez des raisons pour entretenir l'empereur, il faut suivre la marche ordinaire, audience, etc. Et, bien entendu, je me charge de vous faire obtenir cette audience. Si je suis la marche ordinaire, je ne réussirai point dans ce que je désire. Écoutez-moi et vous allez le comprendre. En même temps, vous verrez que ce que je demande, si insolite que cela puisse paraître, est en réalité la seule voie à prendre pour arriver à mon but. » Le prince s'arrêta et, avec un visage grave, presque chagrin, il dit en secouant la tête. « Il faut vraiment que ce soit vous pour que je vous écoute. Si c'était un autre que vous qui fût venu me chercher pour m'amener dans ce lieu désert et humide après minuit, « soyez sûr que je me serais déjà sauvé et au plus vite en criant au secours. Mais c'est un guet-apens, cela. » Roger fit un mouvement pour dégager son bras. Le prince le retint en le serrant doucement. « Vous allez me parler d'affaires, de politique, peut-être, vous, Roger, en qui j'avais confiance. »« D'affaires, oui, de politique, non. »« Merci au moins pour cette bonne parole. » Ils étaient arrivés à la Madeleine, ils revinrent sur leurs pas par le boulevard désert. « Vous savez, dit le duc de Nauruze, que pour tout parent j'ai un grand-père. Vous savez aussi, n'est-ce pas, pour m'en avoir entendu parler quelquefois et surtout pour avoir entendu les propos du monde, quel est ce grand-père et quels sont ses sentiments à mon égard. Ceux d'un héritier ? Comme je suis né d'un père maladif et d'une mère morte jeune, mon grand-père s'est imaginé que je ne pouvais pas, que je ne devais pas vivre, et que, par conséquent, il hériterait de moi un jour. Ce sont les petits-fils qui héritent des grands-pères, et non les grands-pères qui héritent des petits-fils. Chose originale, la conviction de mon grand-père avait passé en moi. Je devais mourir jeune, mon grand-père ne pouvait pas se tromper, cela était sûr. Que cette idée fût gaie et consolante, non. J'ai eu, vous pouvez l'imaginer, des heures, des journées, des nuits surtout, de tristesse affreuse, d'autant plus terrible que j'étais seul. Si je m'étais abandonné à ces idées, il est probable que j'aurais donné raison à mon grand-père. Mais je réagis contre et je me dis que, puisque je n'avais que quelques mois à vivre, je devais les passer gaiement. Ce fut ce qui vous sauva. Justement, en voyant que je ne mourrais point, j'en vins à douter de la justesse des calculs de mon grand-père. Je pris confiance en moi. Je me soignai, je suivis les conseils de mon médecin, au moins en partie, et je gagnai ma majorité, c'est-à-dire le moment où je pouvais soustraire ma fortune à mon grand-père, n'ayant que l'embarras du choix entre les moyens. Soit en la dépensant si tel était mon bon plaisir, soit en me mariant. Ah, misère ! Soit en la léguant par testament à qui je voudrais. Quel soulagement de tromper l'âpreté de cette famille exécrée. Mais en raisonnant ainsi, je me trompais. Et comment ? Vous allez le voir, et vous allez voir en même temps comment votre concours m'est nécessaire. En croyant que j'étais libre de dépenser ma fortune, j'avais compté sans un article de loi qui permet à une famille de faire nommer un conseil judiciaire à celui de ses membres qui donne des preuves de prodigalité. Ces preuves, je les ai données l'autre nuit en perdant 800 000 francs au jeu, et aujourd'hui, mon grand-père va demander à la justice de m'enlever la disposition de ma fortune en me nommant un conseil judiciaire. Aïe ! Et sa demande a de grandes chances d'être accueillie, vous devez le comprendre, non seulement parce qu'elle peut paraître juste, mais encore parce que mon grand-père dispose de puissants moyens d'influence. De mon côté, je n'ai qu'une chance de la combattre, la voici. » Et il expliqua son désir de demander à l'empereur d'être attaché au ministère des Affaires étrangères. On accusait sa vie, il répondait en prouvant qu'il l'avait changée. Enfant, il avait fait des folies, jeune homme, il devenait sérieux. « Maintenant, continua-t-il, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il est indispensable que j'adresse ma demande à l'empereur tout de suite et à l'improviste ? Si je prenais la marche ordinaire, mon grand-père en serait informé et il s'arrangerait pour que l'audience ne me fût pas accordée. De notre côté, si je ne pouvais adresser ma demande que dans quelques jours, l'action en justice contre moi serait déjà déposée et cette demande n'aurait plus l'air que d'être une réplique, un moyen de chicane conseillé par un avoué malin. Tandis qu'en agissant dès demain, je prends les devants. Mon grand-père ne peut rien contre moi, et j'arrive devant les juges avec des armes pour me défendre. Voilà pourquoi j'ai pensé à réclamer votre aide, qui, vous le voyez, peut me sauver, et pourquoi j'ai eu l'idée de vous charger d'une démarche dont je suis le premier à reconnaître la bizarrerie. Eh bien, vous avez eu raison, mon cher Roger, et si bizarre que soit en effet cette démarche, je m'en charge. Vous donner un conseil judiciaire, mais c'est pire que nous imposer un conseil de ministre à nous autres. Je ne veux pas de cela pour vous. Donc, vous vous rendez demain matin, avant 9 heures, à la Muette, au centre de la forêt de Saint-Germain, et là, au déboté, je vous présente. Pendant que vous expliquerez votre affaire, je regarderai le nez de l'entourage, ce sera drôle. Au reste, la chose se prépare bien, car justement, le ministre des Affaires étrangères, le duc d'Arverne, est un des invités, et l'empereur pourra tout de suite vous recommander à lui. Votre grand-père, quoi qu'il fasse, arrivera trop tard. » Cela avait été dit avec une certaine chaleur, il revint au ton de la plaisanterie. Ils allaient quitter le boulevard des Capucines pour passer sur le boulevard des Italiens. « Voulez-vous que je vous mette chez vous ?» demanda Roger. « Chez moi ? Mais bon, Roger, je n'ai pas couché chez moi depuis que j'habite Paris. Je ne sais même pas si je trouverai des draps à mon lit. » Son mouvement d'humeur était passé, il se mit à rire. « Et vous, dit-il, voulez-vous que je vous mette chez Raphaël ? Rue Drouot, n'est-ce pas ? Je ne vais pas chez Raphaël ce soir. »« Ah, bah ! » Et il le regarda en riant. « Elle ne vous plaît point ? Elle me plaît, au contraire. Elle me plaît beaucoup, et c'est justement pour cela que je tiens à en rester là avec elle. Elle me fait peur. Hier, je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, elle pourrait m'entraîner plus loin que je ne voudrais aller. Pourquoi, comment, je n'en sais rien, mais enfin, cela est ainsi. Sans doute, sa nature est en sympathie avec la mienne. En tout cas, je sens que je ferai pour elle quelques grosses sottises et je dois être prudent. Ce n'est pas quand je sens la main de mon grand-père suspendue au-dessus de moi que je peux me risquer. Et je risquerais beaucoup si je la revoyais. »